You can probably watch the screen so you can kind of see security. Welcome. I present to you Michael Terry.
Voilà Michael Terry.
He's in Waterloo, in Canada.
Et au Canada, à la maison. Et je l'ai invité à être présent de manière assez inhabituelle pour présenter un projet qui permet aux utilisateurs de cartographier le mouvement sur un logiciel. C'est la raison pour laquelle je suis ici. J'ai plein de caméras, de fils autour de moi. Je vais parler à Michael du projet qui s'appelle InKim. Donc,
GIMP,
c'est l'éditeur de logiciels libres qui existe depuis un certain temps. Je pense que c'est un logiciel que soit on aime, soit on déteste. C'est une interface vraiment différente, soit on peut trouver ça génial, soit on peut se plaindre que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si on doit demander à Michael si c'est la raison pour laquelle il a arrêté ce projet. Mais ce qu'ils ont fait, je vais vous le montrer, parce que je viens de l'installer sur mon ordinateur, je vais vous montrer à quoi ça sert. Michael, tu ne pourras pas le voir, mais toi tu sais ce que ton logiciel fait de toute façon. J'ai installé une version un peu spécial de l'éditeur d'image qui permet au groupe de recherche d'analyser mes gestes par le biais du logiciel. Si j'ouvre un éditeur d'image, je peux choisir une version instrumentale ou instrumentisée. Une fois que j'ouvre le projet, voilà un écran intéressant qui apparaît devant moi. Parce qu'on me dit clairement que je ne rentre pas dans une session normale. C'est une version instrumentalisée. Il faut donner un type d'activité. En fait, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, on peut publier des images. Cela me donne aussi la possibilité de ne pas aller dans InGIMP pour peut-être regarder les résultats d'autres utilisateurs. Donc, mon utilisation est automatiquement redirigée vers l'utilisation d'autres. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de différent. Je peux ouvrir une image, par exemple. Je peux la bouger. Il fonctionne comme si rien n'avait changé. C'est une image assez intéressante en Chine. Voilà, je peux parcourir l'image. Je peux l'enregistrer, pas l'enregistrer, la retourner. Et puis au moment où je quitte InKim, les données vont être envoyées à un serveur central qui est à Waterloo. Où est-ce que c'est entreposé? Est-ce que tu sais où les traces sont entreposées? Donc on peut tous regarder cela. Je vais vous montrer le site. Il y a un site qui vous montre toutes les traces de tous les utilisateurs qui ont InGIMP sur leur PC installé. Donc, je peux voir combien de temps quelqu'un a besoin, par exemple, pour ouvrir une barre de menu, pour aller d'un outil à l'autre. Mais par exemple, aussi, je peux voir ces modèles d'activité et les tâches ici. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir sur la question parce que je prépare ma connexion. Ça, c'est intéressant, je dirais, essayez vous-même de l'utiliser. Ça permet d'interpréter votre attitude, en fait, par ce type de données. Je pense que Michael va justement nous expliquer, par exemple, comment ils ont pu obtenir autant de données que faire se peut et parallèlement s'assurer qu'un utilisateur ne soit pas révélé. Vous pouvez imaginer que par la possibilité donc de visualiser les données, vous pouvez recréer mon image, vous pouvez aussi revoir le texte que j'avais encodé. Donc vous devez aussi savoir où les traces sont entreposées et comment en quelque sorte les faire disparaître, en tout cas l'origine. Voilà, je reviens à toi. Bonjour. Donc j'ai présenté le software à partir de mon utilisation d'utilisateur, de mon expérience. Alors, je peux ouvrir le document que tu m'as envoyé. Est-ce que tu pourrais parler de ce software? Bon après-midi. T'as les slides? Ouais, voilà. Deuxième transparent, s'il te plaît. Contrôle à distance, oui, tout à fait.
So, I'm a professor at the David R. Sheridan School of Computer Science at the University of Waterloo in Canada, and my primary interest is human-computer interaction. So, essentially, how can we make computers easier to use? And in particular, I'm really interested in building practices in the open source community.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communauté des open source. Je vais vous donner une vue d'ensemble brève de ce que je fais. Je pense peut passer au transparent suivant. Je vais vous montrer, ou en tout cas, ma collègue vous a montré une démonstration rapide du logiciel. Je vais vous parler de la conception du software, de l'utilisation des données, pourquoi on est motivé à l'utiliser et pourquoi on peut communiquer avec des portails. Transparent suivant, les règles du jeu. Moi, je suis au Canada, vous êtes en Belgique. On n'est pas ensemble parce qu'il y a beaucoup d'eau entre nous. Et la seule règle, c'est que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment vous le voulez. Si vous avez des questions, vous criez, vous m'interrompez et je répondrai. OK?
Yes.
Jim est une application open source. C'est une de mes applications favorites avec beaucoup de fonctionnalités. Mais les concepteurs ici, ce qui les intéresse, c'est toujours d'améliorer le logiciel. On peut utiliser pour de la peinture, de la conception graphique, des images. Vous pouvez l'utiliser pour différentes propriétés. Quand on parle de traces, ce que font les gens, où vont-ils? Bon, comment les gens utilisent leur software? Finalement, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne derrière. Donc voilà. Il y a des choses vraiment géniales dans cette communauté. On travaille avec la communauté des développeurs. Je suis désolée, mais le son est vraiment exécrable pour entendre, ça rend l'interprétation difficile. Il y a toujours des questions qui restent, c'est-à-dire comment la communauté s'adapte. nous l'utilisons, par exemple, dans le monde professionnel ou après. La question, c'est qui, que quoi, dont, où. Nous ne connaissons pas véritablement la réponse, parce que l'utilisateur de software, ça peut être n'importe qui. Et comment voulez-vous qu'on retrouve des traces de cela? Je pense qu'il est important de faire cette distinction. Si vous voulez augmenter le caractère d'utilisation d'un logiciel, il faut malgré tout savoir qui l'utilise, où il est utilisé, comment il est utilisé, quelles sont les caractéristiques les plus utilisées. C'est traditionnellement ce que l'on regarde quand on parle de usability, donc du caractère utilisable. Moi, ce que je vais vous parler, c'est l'utilisation, l'usabilité en anglais des données, c'est-à-dire comment les données sont utilisées. Et vous pouvez identifier alors certains types, mais c'est différent des gens qui, chez eux, finalement, font un peu ce qu'ils veulent et qu'ils utilisent pour le plaisir. Donc, ce qui importe ici, c'est regarder l'utilisation de la communauté faite par la communauté au sens large du terme. Et puis, il faut étudier la composition de cette communauté. Mais évidemment, souvent, on ne le sait pas. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Et cela veut dire que peut-être que l'on devrait passer plus de temps pour trouver cet aspect, pour répondre aux demandes en plus de ces personnes. Qu'est-ce que les gens font avec des images? Est-ce qu'ils conçoivent des Lego? Qu'est-ce qu'ils font? Sans ces données,
this is Skype.
Sorry, we're losing you once in a while now. Yes.
J'utilise une version bêta de Skype. On va essayer. Et puis après, on peut voir pour des questions. Voilà, tu es de nouveau là. Est-ce qu'on peut passer au transparent suivant? Ouais. Spéculation. Bon, je peux pas passer. J'ose pas partir du principe que sûrement tu peux remplir tous les blancs que la rupture de la ligne va imposer, mais bon, je te fais confiance. Mais de nouveau, je le répète, c'est finalement, on ne sait pas exactement comment les logiciels sont utilisés, par qui, comment les gens les utilisent, etc., ni le type de système. Donc il y a beaucoup de spéculation. Et
it has so much functionality, but they like to argue so much.
Certains logiciels ont des fonctionnalités, mais finalement, ils utilisent des termes qu'ils n'utilisent pas. Et je pense que une des questions qui est toujours là, c'est la conception de Windows. Est-ce qu'il faudrait que toutes les instructions soient dans une fenêtre unique ou que chaque groupe soit dans une fenêtre distincte? Par exemple, Photoshop, bon, vous avez une fenêtre générale pour tout, et certaines personnes adorent cela. D'autres n'aiment pas du tout cette idée de Photoshop. Et donc, il faut voir le type de conception qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a envie d'avoir un moniteur, donc un écran avec plusieurs écrans, donc plusieurs windows, plusieurs fenêtres, ou est-ce qu'on veut plutôt avoir un gros truc? Est-ce qu'on préfère avoir tout qui flotte littéralement sur l'écran? Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de spéculations en la matière, et en tant que designer, je pense qu'il est important de savoir où l'on va, mais finalement, on ne sait pas combien de personnes utilisent les caractéristiques, lesquelles ils veulent avoir sur l'écran, etc. Donc, transparent. Suivant, s'il te plaît. En fait, ce qui a motivé ce travail, c'est que les projets open source manquent d'infrastructures pour collecter les données d'utilisation. C'est vrai que Microsoft est un bon exemple parce qu'ils ont l'infrastructure en place pour faire ce genre d'études de marché. Mais pour les projets open source, ils n'ont pas l'infrastructure pour collecter les données d'utilisation. Donc, bon, c'est vrai qu'ils essayent de collecter des données un peu à gauche, à droite, sur les environnements d'utilisateurs, mais pas vraiment de données sur l'utilisation des softwares, des logiciels eux-mêmes. Et c'est là que InGIM intervient. Et je vous propose d'aller au transparent 10. InGIM est une version instrumentale de GIMP. Donc, c'est un outil qui permet de révéler ce qui se passe dans la communauté pour comprendre finalement comment les gens utilisent le logiciel. Et c'est le premier exemple d'instrumentation pour tout ce qui est logiciel à open source. Je vais en parler. Transparent suivant. Alors, nous collectons des données qui sont disponibles publiquement. Et n'importe qui peut télécharger, analyser les données collectées. Donc, c'est ouvert. N'importe qui peut regarder. Tout le monde peut inspecter la source pour voir exactement quelles sont les données qui sont collectées aussi et comment elles le sont. Donc, c'est un processus extrêmement transparent. Transparent suivant. Donc, en fait, il y a deux composantes majeures en l'occurrence. D'abord, c'est la partie instrumentale. Et puis, il y a la partie de coopération. Il y a une page web où vous pouvez consulter les données qui ont été collectées. Ainsi, vous savez ce qui a été exactement collecté et où ça l'a été. Donc, c'est vraiment tout à fait transparent. Voilà comment ça marche. Voici ici la façon dont les gens utilisent les softwares. Vous avez un graphique basique qui essaye de refléter l'utilisation par les utilisateurs ou par une communauté d'utilisateurs. En fait, nous savons que la plupart des gens qui travaillent sur des images utilisaient par exemple certaines spécificités plus que d'autres. Par exemple, ici on regarde aussi quelles sont les couches utilisées sur l'image. On appelle ça en anglais des layers. Et on voit que la plupart des gens ne travaillaient que finalement avec une couche. C'est rare qu'ils travaillaient sur des images multicouches. Bon, il y en avait toujours quelques-uns qui ajoutaient des couches à l'image parce qu'ils voulaient transformer leurs images, mais en règle générale, on peut dire que les gens ne travaillent que sur une couche. En bas, à gauche, nous avons étudié les heures de la journée d'utilisation. On voit ici que l'utilisation, évidemment, pendant la nuit diminue fortement et qu'au cours de la journée, on voit effectivement le nombre donc, d'heures par jour sur un ordinateur. Donc vous voyez le nombre de jours et puis on a la partie nocturne qui ressort aussi. Le dernier ici, c'est la longueur en termes d'heures où on ouvre une gym. Est-ce qu'on ouvre une gym pour une heure ou pour moins? Cela vous donne donc une image de la communauté. On voit que les gens ne l'utilisent pas pour des heures et des heures. En tout cas, quelques-uns peut-être, mais c'est très rare. La plupart l'utilisent une fois comme ça de temps en temps quand ça leur passe par la tête. Donc, nous avons cette spéculation. Donc, pouvons-nous demander au départ qui utilise les logiciels bien? Comment savoir un aperçu? On voit que 86% des utilisateurs de InGym ont simplement un setup avec un moniteur unique, donc un écran, une fenêtre unique. La plupart des résolutions utilisées, vous les voyez exprimées en pixels, donc 1024x768, 33% 1280x1024, 33% donc une résolution finalement assez faible, et 90% sont des utilisateurs de Windows. Et ça, c'est les données que nous avons obtenues, franchement. Donc, 90% des utilisateurs sont des utilisateurs Windows. Et la résolution typique des écrans, donc des moniteurs, on peut parler de moniteurs et d'écrans, entraîne aussi des interactions avec la conception. Donc, plus, je dirais, le moniteur est précis dans son rendu en pixels, plus aussi on constate que les gens vont rentrer dans les détails lorsqu'il s'agira de concevoir des images. Voilà. Non, on ne va pas en parler, même pas le 15. 16. On collecte donc des données, on collecte des caractéristiques telles que la caractéristique du système, l'utilisation des commandes, des lignes de commandes, les événements liés à l'interface, les caractéristiques des documents et les tags d'activité. Donc voilà, ça c'est le type de données qu'on enregistre automatiquement. On utilise donc, comme je le disais, par exemple, des événements d'interface. Quand on ouvre une fenêtre, ça veut dire, par exemple, quand on ferme une fenêtre, comment aussi les personnes vont répartir avec les différentes fenêtres les informations sur l'écran. Donc là aussi, on va, par exemple, étudier le nombre de couches qui sont utilisées. Aussi, on voit qu'est-ce qui se passe au niveau des pictogrammes. On compte de nouveau le nombre de pixels du plus noir vers le plus clair. Vous voyez, on reprend ça sous le graphique en bas à droite. Et on voit qu'il y a cette distribution donc en termes de pixels qui apparaît en blanc et en noir. On collecte ces pictogrammes et alors on peut dire, par exemple, qu'il y a des gens qui vont travailler plus avec des couleurs, que d'autres vont travailler moins avec des couleurs, que l'un donc aura plus, je ne sais pas moi, un intérêt pour la photographie parce qu'il fait attention aux couleurs. Donc ça nous donne une idée des applications, de la qualité des applications, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que les gens travaillent sur des textes, hein, parce que le texte, finalement, comme couleur, c'est noir et blanc, il n'y a pas 36 224 couleurs qui sont impliquées. Et les activity tags, c'est le cinquième point, transparent suivant. En fait, on vous demande ce que vous faites avec le logiciel. Les gens peuvent caractériser eux-mêmes leur travail, ce qu'ils font eux-mêmes avec le logiciel. Et si vous allez sur la page web, vous pouvez retrouver toutes vos activités. En fait, c'est vos historiques d'activités. Ça peut être très utile pour nous. On essaye de collecter ces données. Ça vous donne des informations parfois très très détaillées. Ça vous donne une image d'ensemble très intéressante. Oui, je pense que j'ai downloadé ici un des exemples. Je peux le montrer, je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est la liste, on peut dire, c'est l'historique de tout ce qui s'est passé, quoi. Vous voyez aussi les activités qui ont lieu, mais c'est la liste, donc c'est l'historique pour plusieurs personnes, évidemment. Vous avez aussi certaines descriptions, ce que les gens ont décrit. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est une liste intéressante d'activités, assez longue. Très bien. Alors, à toi de nouveau la parole. InGym est en fait un format qui permet aussi d'expliquer la façon dont on peut motiver finalement les gens à utiliser, ou quelle est la motivation des gens. Donc en fait, on essaye d'obtenir des statistiques personnalisées et personnelles. C'est pas toujours simple. En fait,
so that you continue using the software as normal.
L'idée, c'est de pouvoir, pour l'utilisateur aussi, pouvoir continuer à utiliser le software de manière transparente. Il ne doit pas se rendre compte, effectivement, qu'on est là. L'idée, c'est de collecter des données, mais bon. La première fois que vous lancez l'application, il faut qu'il y ait une personnalisation. C'est quelque chose de très important. Pour la communauté. Moi, je me demandais si les gens faisaient finalement la concurrence pour faire les choses le plus rapidement possible ou le plus lentement possible. Je ne sais pas. Si. Ce qui existe au moment permet ce type de concurrence. Est-ce qu'il y a ce type de concurrence du genre « Ah, moi je suis celui qui est resté le plus longtemps en ligne, j'ai eu la session la plus longue, ou moi je suis le troisième plus gros utilisateur ?» Non, ça c'est pas le genre de truc qui m'intéresse franchement. C'est pas le genre d'exercice qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des données quant à l'utilisation, pas la longueur d'utilisation. Mais c'est vrai qu'en personnalisant, les gens aiment personnaliser cet exercice parce que ils se sentent beaucoup plus concernés. Je te propose de passer au transparent 20 parce que le transparent 20 décrit cela aussi. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est d'inclure cette présence online. C'est quelque chose que l'on gère automatiquement. Voilà, donc chaque personne, vous voyez ici une personne reprise à droite, doit introduire ses données personnelles en ligne, voilà. Et puis, cette personne nous indique les outils qu'ils utilisent le plus fréquemment. Souvent, ils utilisent plusieurs outils. Hein, par exemple, si on prend un programme de dessin, ils vont utiliser le crayon, la gomme, ils vont utiliser le seau pour remplir les couleurs. Donc, ils vont souvent réutiliser plusieurs outils. C'est ça que je vais essayer de représenter ici. Et qu'est-ce qu'il a là sur la tête? Il a une fleur ou il a une blessure? Il s'est pris quelque chose, il s'est pris une pour dans la gueule? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est quand quelqu'un fait une erreur, il se cogne la tête contre les murs, c'est ça peut-être. Alors, une des choses que l'on fait, c'est de permettre aux gens de comprendre quel est leur high-level activity. À quoi est-ce que cela correspond finalement? Et ce que nous avons découvert lors d'une des sessions avec les utilisateurs, c'est que ils répètent. On a parlé et on a ici Photoshop. À partir de ce moment-là, à partir de cette activité, que les gens donc ont sur Photoshop, nous on essaye de suivre toutes les traces, tout ce qu'ils font. Et alors on se rend compte que par exemple, les gens vont utiliser telle chose. Alors oui, c'est vrai que quand les gens se trompent 50 fois parce qu'ils veulent par exemple faire ceci ou cela et puis que ça marche pas, alors c'est pour ça qu'on a le sparadrap, parce que finalement c'est vrai, ils se cognent la tête contre l'écran parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser Photoshop? Photoshop est tellement compliqué parfois que franchement, c'est un véritable casse-tête que d'arriver à utiliser tous les outils. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de représenter par le sparadrap sur la tête. C'est la personne qui essaye définitivement de comprendre comment ça marche et puis il n'en peut plus. Et alors, on voit qu'il y a même des petites pièces sur le sol parce qu'il se casse tellement la tête, mais c'est extrêmement compliqué de tout comprendre. Donc, je te propose de passer au transparent suivant, c'est le transparent 22. Non, encore le 21, encore une chose. La personne porte une cravate. C'est parce qu'ils utilisent souvent les logiciels au cours de leur journée de travail. Ils l'utilisent souvent au bureau. Et toi aussi, tu travailles, tu portes une cravate quand tu es au travail, n'est-ce pas? Oui, non, moi, tu sais, je suis plus cool, je suis plus relax. Et puis, quand je parle avec toi, j'ai pas besoin de cravate. Voilà, ici, tu vois qu'il y a un outil différent qui est présent. C'est une caméra, en fait, un appareil photo. Et ils utilisent le software pour des effets de manipulation. Et les images sont en fait photographiées. C'est un peu comme les wallet pictures. Page 23. J'en peux plus. De nouvelle réalité. Donc cette photo que vous voyez, ça a été pris au mois d'août, au mois de septembre, et il y a des centaines de personnes là. Donc voilà, ça c'est le nombre de gens que vous pouviez organiser pour en faire une foule. Et c'est une image qui a été prise. C'est une image qu'on peut regarder. Et ça représente une communauté. Est-ce que je peux vous poser une question? Quand est-ce que vous travaillez sur ces images? Parce que moi, je peux penser que cela fait une bonne représentation du type de choses qu'on veut envisager. C'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas comment on peut réaliser ces images. Nous avons un plan. Et ce que nous voudrions faire dans l'avenir, c'est créer de nouveaux types d'images. Et nous avons pour ce faire plusieurs possibilités. Et une des choses auxquelles nous devons penser, c'est le type de représentation que les gens voudraient avoir. Ça pourrait être une représentation très variable d'une personne à l'autre. Oui, moi, je pose la question parce que c'est désirable, souhaitable et non souhaitable. Donc, je ne sais pas. Je pense que parfois, les gens souhaitent être représentés d'une certaine manière. Alors, il faut regarder le texte, l'image qui va avec le texte. Et je pense que, bien entendu, je crois qu'il serait intéressant pour créer une communauté d'utilisateurs, mais pour essayer de collecter des données et pour revoir comment vous vous représentez ces réalités. Oui, vous avez raison. Je crois que c'est très intéressant, cette question. Et je crois que nous devrions avoir un certain protocole. Bon, j'imagine bien que l'on travaille sur une hypothèse. Alors, voilà. Alors, nous voulons compiler les données, nous voulons utiliser ces données d'une certaine manière. Et nous commençons à analyser ces données nous-mêmes, mais on parle aux gens, on apporte tout cela au laboratoire, on travaille avec le laboratoire, et les gens sont habitués aux statistiques. Et ceux qui sont habitués à voir et à utiliser des statistiques aiment également apprendre le logiciel. Et très, très fréquemment, ils utilisent des systèmes qui leur apportent plus de fonctionnalités possibles. Donc, et ces données nous donnent une remontée d'informations, en fait. Nous apportent une certaine contribution de la part des utilisateurs. L'idée, à l'origine, c'était de caractériser la communauté d'utilisateurs de telle sorte que l'on pourrait répondre à leurs demandes. Mais on ne s'attend pas à avoir la réponse à ces questions immédiates. Je crois que cela doit prendre des années même. Les données ont été compilées à l'heure actuelle, mais nous continuons à essayer de mettre ensemble toutes ces données pour essayer d'avoir un dossier plus épais et mieux comprendre les demandes des utilisateurs. Donc, il y a quand même une gamme de choses que nous pouvons utiliser. Nous pouvons recommander des systèmes, nous pouvons avoir énormément de possibilités.
Et donc, lorsque nous compilons toutes ces données, cela correspond à une valeur directe pour les utilisateurs finaux. Mais on peut s'imaginer plusieurs interfaces. On peut également utiliser, on peut imaginer des utilisations alternatives. Pour utiliser ces données, nous pouvons avoir un système help. Nous pouvons avoir un système de formation, un système de tutorage, des interfaces et même un système qui pourrait être donné à plusieurs personnes. Alors, il y a énormément de possibilités d'utiliser ces statistiques, mais nous venons de commencer cela. Diapositive suivante. Alors, je ne sais pas. Cinq minutes, qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être cinq minutes. J'oubliais la caméra et que je ne pouvais pas bouger. Alors, cinq minutes et peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrions avoir une discussion. Donc, encore cinq minutes. Cinq minutes. Voilà. Bon. Alors, un gros souci que nous avons dans ce projet, c'est la considération sur le côté privé des gens. Nous avons collecté pas mal de données, mais est-ce que ces données peuvent être rendues publiques? Alors, nous avons essayé de compiler et de rédiger un contrat, un arrangement, mais les gens peuvent avoir des problèmes quant à leur vie privée. Et peuvent peut-être souhaiter que ces données qui ont été collectées ne soient pas rendues publiques. Donc, il faut signer un accord de consentement, d'autorisation pour faire face à ces problèmes de la vie privée. Alors, je ne sais pas combien de personnes lisent cet accord d'autorisation. Alors, ce que nous avons fait, en fait, au niveau international et au niveau national, c'est ce que nous avons fait ici, vous le voyez, et c'est nous montrons comment cela fonctionne. Donc, ici, vous voyez. Nous avons le logiciel, vous collectez les données, vous cliquez, vous avez les mots-clés. Et ensuite, progressivement, voilà le système qui fonctionne. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne une vue générale des données des gens. On n'entre pas dans les détails. Alors, donc, vous voyez ce qu'on peut obtenir grâce à cela. Vous voyez ici, donc vous voyez, donc vous voyez tout ce qui a été apporté. Donc, nous faisons cela chaque fois. Ensuite, ici, nous montrons tout ce qui a été fait. Nous montrons deux exemples et vous montrez les exemples au début de l'opération et à la fin de l'opération. Alors ici, donc vous voyez, le même ordre, nous commençons à entrer les données et on accepte les données uniquement celles qui nous sont fournies. Mais on va essayer d'être sûr de garder ce caractère privé de la personne, parce que à ce moment-là, vous allez, s'il n'y a jamais un côté qui pose problème, nous aurons un écran blanc qui va apparaître, un écran vide. Donc, je crois que c'est un aspect important de ce projet. Il faut faire en sorte que les personnes soient conscientes de ce qui va arriver. Et nous faisons. Nous voulons que les personnes comprennent tout le fonctionnement. Bon, je pense que c'est tout. Alors, peut-être encore la dernière diapositive. Donc, le résumé. Donc, c'est une toute nouvelle initiative qui s'ouvre à l'usabilité open source. C'est un premier exemple d'instrumentation ouverte et libre. Il y a environ 700 installations qui ont été faites au cours de ces 6 derniers mois. Et la majorité, ce sont des sources non anglaises. Et il y a environ 300 dossiers qui ont été entrés. Et nous avons des centaines de milliers de données qui ont été entrées dans le système. Et ensuite, nous avons également les pictographes qui sont très, très importants pour améliorer notre système. Alors, ce qui va se passer dans le prochain avenir, c'est-à-dire que la semaine prochaine, InCrip va lancer le système 2.4.2 pour faire face à la version officielle. Nous allons avoir une analyse des données ouvertes et nous allons également avoir la possibilité d'avoir certaines visualisations, de telle sorte que toute la communauté pourrait avoir accès à notre projet. Et nous voulons avoir une nouvelle vision, nous voulons avoir une nouvelle manière d'approcher ces logiciels. Et vous voyez qu'ici, les couleurs apparaissent, de telle sorte que vous avez des barres en couleurs, ce qui vous montre la durée, la variabilité. Donc, on essaye d'avoir différentes manières de visualiser les données de manière à avoir quelque chose de plus convivial. Merci beaucoup de m'avoir consacré votre temps et j'espère vous avoir été utile. Ça a été très sympathique de parler avec vous au-delà de l'océan. Je crois qu'il y aura des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour moi. Ça a été très intéressant de voir cette possibilité qui s'est ouverte pour moi. Véritablement, ça ne peut que s'accroître avec cette approche communautaire et c'est la bonne manière. Il faut co-développer ce genre de système. Alors, je ne sais pas. Mais prenez une chaise. Oh. Voilà, c'est Gokhan. Donc je ne peux que vous le décrire, vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être qu'on peut mettre la caméra sur lui. Ah oh, ben s'il se cache, ça n'ira pas.
Yes, I want this. Okay, so now we've placed a chair in the middle of the room.
Voilà, il se trouve au milieu de la pièce, assis sur une chaise devant la caméra. Il va vous parler, vous poser sa question. Comment InGIM peut améliorer l'usabilité de ce système? Donc, je n'ai pas entendu votre question. Ah non, mais oui, non, lui, ce n'est pas son micro à lui, c'est son micro à elle qui doit fonctionner. Comment InGIM peut améliorer l'usabilité? Bon, il répète pour la troisième fois. Est-ce que vous avez des connexions avec le développeur d'InGIM? Oui, certainement. Donc, à nouveau, je voudrais être très, très clair et je voudrais vous parler de nos objectifs et les objectifs des développeurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Et cette collaboration traite des problèmes, c'est-à-dire fournir des informations pour voir comment on peut travailler un petit peu mieux avec les développeurs. Donc, c'est un complément. Donc, notre intention, et j'espère que nous allons pouvoir développer cette approche multidisciplinaire. Je pense que nous allons faire énormément de choses ensemble au cours des 6 mois à venir.
Mmh.
Donc tout d'abord, notre premier objectif, c'est de collecter les données, les mettre d'une manière efficace et faire en sorte que les utilisateurs comprennent bien tout ce que nous faisons. Ça, c'est notre objectif primaire. Ensuite, nous traiterons des développeurs. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Autre question? Aïe. Hola. C'est un peu le même genre de question que je voulais poser. Je me pose la question suivante. Les utilisateurs qui regardent les statistiques et les développeurs aussi, est-ce qu'ils changent le logiciel ou bien est-ce que ce sont les mêmes données qu'on donne aux développeurs et aux utilisateurs? C'est prématuré de parler de cela. C'est trop tôt pour poser cette question. Donc, nous sommes simplement au début de cette initiative, mais je pense que il va falloir attendre un certain temps avant que l'on puisse vraiment construire une base de données qui soit semblable pour les développeurs et pour les utilisateurs. J'espère qu'on pourra le faire. Donc, quelles sont les questions, quelles sont les données qu'ils veulent avoir? Et ils ne savent pas vraiment le type de données qu'ils souhaitent. Et ils se fient à nous, ils reposent sur nous. Et ils veulent qu'on les aide à trouver le type de choses qu'ils souhaitent. Donc vraiment, c'est une activité qui émerge, c'est une activité qui est tout à fait nouvelle et nous marchons progressivement, petit à petit, pas à pas. A-t-il d'autres questions? C'est de nouveau moi. Donc, je me posais une autre question. Cette petite boîte dans laquelle vous dites les activités et vous pouvez choisir les mots pour décrire vos activités. Vous vous souvenez? Est-ce que vous devez faire cela ou bien est-ce que vous décidez de le faire? Et si vous décidez de le faire, quelle est la fréquence? Parce que c'est du temps qui s'ajoute à ce que vous faites déjà normalement. Donc, il faut le faire. Mais les gens peuvent s'exprimer avec leurs propres mots. Et combien de personnes le font? Je crois que ça, nous devrions l'envisager, l'étudier, nous ne le savons pas. Donc, je pense que plus tard, nous allons nous demander si on ne va pas devoir le rendre obligatoire pour tout le monde. Laurence, les contacts avec les autres. Est-ce que vous avez d'autres développeurs intéressants qui suivent l'utilisation des utilisateurs? Nous avons présenté cela lors d'une réunion, et ça je vous l'ai déjà dit au début de ma présentation, et nous avons fait cette présentation devant des personnes qui souhaitaient nous écouter, qui souhaitaient prendre de nouvelles approches. Alors, je vous donne un exemple ici. Une des règles que nous avons, c'est si vous avez, par exemple, on ne met pas comme données les données que tout le monde connaît. Je crois que cette manière visuelle de procéder est une approche beaucoup plus moderne.
might be their signature set of colors. They might not want to reveal that.
Donc, vous devez penser au type de données que vous collectez et comment ça va être utilisé pour remplir et répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a d'autres approches, mais je pense que ce nous essayons de résoudre tous les problèmes d'une manière spécifique, mais nous devons d'abord voir ce qui va se passer. Nous devons apprendre, tirer des leçons de ce que nous faisons à l'heure actuelle. Et chaque fois, nous allons pouvoir améliorer notre approche, notre système. J'ai une question quant à ces personas. Comment est-ce que vous utilisez ces personnes? Ah oui, c'est trompe de micro, oui. Donc, je parlais dans le mauvais micro. Donc, je voulais vous poser une question en ce qui concerne ces personnes. Comment est-ce que vous avez l'intention d'utiliser ces personas? Est-ce que vous essayez de trouver un modèle? Ou bien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Les personas sont utilisés pour les données. Hop là, il est perdu. Les gens, ils ont des attitudes différentes. D'abord, il y a des gens qui n'aiment pas les mathématiques, les gens qui n'aiment pas les chiffres, il y a les gens qui n'aiment pas les... les statistiques. Donc, il y a des personnes qui aiment bien visualiser ça d'une autre manière, par exemple, comme avec ces personnes-là qui vous parlent davantage. Et il y a un potentiel de fournir davantage d'informations grâce à ces personnes-là. Mais je crois que si vous voulez prendre les graphiques, les statistiques qui se trouvent derrière, donc les personnes nous aident. Comme on l'a déjà dit auparavant, il y a plusieurs expériences qui sont faites à l'heure actuelle. Et je ne sais pas, on va peut-être créer plusieurs personas, on va peut-être l'utiliser comme modèle. Donc, je ne sais pas, ça peut devenir un instrument en soi. J'ai une ou deux questions, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole. C'est une question difficile. Je n'ose pas bouger. Il est intéressant de voir comment vous essayez de vous occuper des problèmes de confidentialité. Je crois que c'est un problème très très important. Dans la position que vous avez, donc vous faites un travail préliminaire, mais je voudrais connaître vos idées pour voir comment cela crée une image de l'utilisateur, c'est-à-dire que, étant donné que vous voulez être très prudent quant à la confidentialité, peut-être que vous allez perdre de vue les données les plus importantes. Les plus importantes de la personne. Et comment est-ce que vous pensez à ce problème de confidentialité? Je crois qu'il faut se souvenir qu'il y a toujours des pour et des contre. Donc si vous Je vous suis très, très reconnaissant d'avoir fait l'effort de nous faire cette présentation, d'avoir surmonté tous ces efforts. Donc, j'espère que vous allez avoir une bonne matinée, puisqu'il est déjà tard chez vous. Merci beaucoup.
Yeah, but then tell me which one, because
it's the
here
one is yeah, I know, it's mess and yellow, but the one is taped is supposed to be black, you know, you see if you kind of look from a distance.
Oh, yeah, so you got
no, 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 this is video.
Okay, sorry. Yeah,
right.
All black.
Yeah.
Okay.
Okay, what a mess. Before it went so well. Now, and it's just the thing with these mics, I mean, they're not even good, they're not
Yeah.
Now, that's it again.
Thank you.
Voilà, nous avons ici un orateur avant la pause repas. Là-bas.
Tu me mets en plus de
Après cette expérience, j'ai lu cet article et j'ai quasi dévoré ce livre. Pour moi, comment dire, qui est passionnant. Quand je lui donne la parole, c'est le mélange qu'il fait entre finalement la compréhension profonde. Mais mon approche est un peu folle à certains égards. Souvent, moi, hélas, je me perds souvent dans les détails techniques et j'éprouve des difficultés parfois à m'éloigner du caractère technique des choses. Mais ici, dans cette présentation, j'ai trois messages. D'abord, le code spécifique, le DSP, Digital Signal Processing, donc le code DSP. Je veux vous donner un exemple particulièrement important du DSP et le type de transformation qui se produit. Et ensuite, je vais vous parler de notre interprétation du DSP en se basant effectivement sur l'espace et le mouvement. Et j'ai deux concepts ici qui ont beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour utiliser les technologies pour les interactions. Cependant, il y a quelques domaines de culture médiatique et technologique qui me sont extrêmement intéressants. En fait, cela peut être très important, cela peut faire partie effective de la vie quotidienne, et cependant, ils peuvent rester invisibles. Ils résistent à la contestation et l'engagement. Et ceci est peut-être dû au fait qu'ils contiennent des matériaux qui ne sont pas traçables, des matériaux qui sont organisés d'une manière tellement compliquée. Va justement aborder ce domaine, donc le DSP. Je ne dis pas effectivement que les nouveaux médias et que c'est quelque chose de normal, de quotidien. Je vais vous donner une vidéo promotionnelle d'Intel. C'est pour promouvoir le changement.